Octave Mirbeau, l'octogénaire. Depuis plus de 20 années, la mère Rosa Pelletreni vivait seule, toute seule, en un petit village de la campagne de Rome. Son mari était mort, dévoré par la pellagre. Les fièvres avaient emporté sa fille. Son fils, parti pour Paris, s'y était marié, avait eu des enfants, faisait le diable sait quoi. Et elle, la mère Rosa, avait 80 ans. Malgré la peur du voyage, qui prend d'ordinaire les vieilles gens, et bien que jusqu'ici elle eût supporté sans peine une absence à laquelle le plus souvent elle ne songeait guère, elle désira tout d'un coup revoir ce fils presque oublié, connaître ses petits-enfants, ne pas mourir sans les embrasser. Elle ne possédait que très peu d'argent, juste de quoi suffire aux dépenses du voyage, un argent péniblement amassé, miette par miette, sou par sou, âprement gratté sur l'épargne continue des aumônes, car ne pouvant plus travailler, la mère Rosa Pelletreni ne vivait que de charité publique, de quêtes faites le dimanche sous le porche de l'église. Certes, cela l'effrayait beaucoup de se séparer à jamais de cet argent, tout son argent, et de courir à son âge l'incertaine chance d'un voyage hasardeux. Mais le désir, transformé bien vite en manie obsédante, étouffa les conseils de la prudence, triompha les résistances de l'avarice. D'ailleurs, à part de menues infirmités communes aux vieillards, elle était droite encore et vaillante, se portait bien. Et puis, dans le fond, elle espérait que son fils serait riche, que l'affaire ne serait pas aussi folle, aussi mauvaise qu'il était permis de le craindre. N'ayant point lu Leopardi, la mère Rosa était optimiste. Elle brûla un cierge à la Madone, et confiante, gaie, la foi dans le cœur, elle partit. Quand elle arriva, la tête un peu trouble et très lasse, son fils d'abord ne la reconnut point. Et lorsqu'elle se fut nommée, il poussa un épouvantable juron. « Que viens-tu faire ici ? » cria-t-il. « Te voir, mon enfant, » eut peine à répondre la bonne femme. Il s'emporta à l'air mauvais. « Mais t'aurais bien pu rester là-bas, vieille coureuse. J'ai pas de pain pour toi, j'ai rien pour toi. Oh, je ne mange guère, va, et pour loger une paillasse dans un coin, ça me suffira. » Le fils réfléchit un instant. « Non, » dit-il, « retourne d'où tu viens, nous n'avons que faire de toi ici. » Elle supplia, « Mon fils, je t'en prie, m'en retourner, comment le puis-je? Le peu que j'avais, je ne l'ai plus, les voyages coûtent cher, ils m'ont tout pris, m'en retourner. Hélas, mes jambes sont trop faibles et ne me porteraient pas loin. » « Elles te porteront au diable, allez, va-t'en. » « Mon fils, mais si longtemps sans te voir, et voilà comme tu me reçois. » « Oh, fiche-moi la paix, va-t'en. » « Tu veux donc que je meure, dis ?» Et la vieille mère, se couvrant les yeux de son tablier, sanglota lamentablement. Mais Pelletreni venait d'avoir une idée, étrangère d'ailleurs à la menace de mort de la vieille. Il se radoucit. « Toi, dit-il, bon, je te garde, mais à une condition. Mais tout, je ferai tout, mon enfant. » C'est que tu travailleras, que tu gagneras ton pain. Je veux bien, en vérité, je veux bien, mais je n'ai plus de force dans les bras. Je suis si vieille. Eh, crois-tu donc qu'il s'agit de décharger des bateaux? Mais non, tu feras comme moi, comme ma femme, comme mes enfants. Tu iras dans les ateliers, tu poseras, voilà. Elle ne savait pas ce que c'était que d'aller dans les ateliers et de poser. Et quand son fils lui eut expliqué, « Bonne Vierge, cria-t-elle en joignant les mains, doux Jésus, tu veux que je me mette nu devant un homme, moi qui jamais ne me suis montré tel à personne, pas même à ton père, je te jure sur la croix, pas même à ton père. » Pelletreni ricana. Cette confidence transformait sa colère en jovialité. « Ah! Tu crains que ta vieille peau n'excite les messieurs? Ta vieille peau! Mon fils, mais tu te moques! Elle était devenue toute rouge, gênée. Elle murmura d'un ton plus bas. Et puis voyons, je suis trop vieille, personne ne voudra faire mon portrait ainsi. T'occupe pas de ça, il y en a qui aiment les vieilles carcasses comme la tienne, j'en connais. Mais non, non, tu es un mauvais enfant. Mais le modèle, irrité de nouveau, se mit à battre sa mère. Et l'ayant battue, il menaça de la jeter dehors. Alors il fut convenu qu'elle irait dans les ateliers. Je l'ai vue hier, la mère Rosa, chez un sculpteur de nos amis. Quand j'entrais dans l'atelier, une très vieille femme, toute nue, assise sur la table à modèle, posait. C'était elle. Immobile ainsi qu'une statue, elle avait le dos voûté, la tête aux cheveux rudes et rares penchée sur l'épaule droite en un mouvement douloureux. Ses mains et une partie des avant-bras plongeaient entre les cuisses rapprochées pour cacher le bas du ventre et jeter un voile d'ombre épaisse sur la nudité attristante du sexe. Et sur les murs peints à la chaux, dans cette atmosphère de plâtre, parmi les moulages d'une blancheur froide qui encombrait l'atelier, ces vieilles chairs meurtries paraissaient plus jaunes, avec des lumières plus vertes, et prenait des tons lisses et la chaude patine d'un ivoire ancien. À cette vue, je ne pus me défendre d'une grande mélancolie, cette mélancolie si poignante qu'inspirèrent toujours la ruine des êtres et la mort des choses. Et je me dis, pensant à celle que j'ai aimée, « Eh, bientôt vous serez vivantes, ô mes chères âmes, pareilles aux momies desséchées dans leurs tombeaux, et les autres rosses de vos seins, qui tant de fois me versèrent l'ivresse du désir, se tarieront, ô mes douces amours, et pendront sur vos charmes abolis, plus fripés, plus aplatis, plus hideuses que des lambeaux d'amadou et des paupières mortes. Et vos bouches, ô mes reines, où dans les parfums de votre haleine palpita l'aile frémissante du baiser, vos bouches ne seront plus qu'un trou fétide et noir qui soufflera la mort, ô vous, les lumières divines de mes yeux. » Pourtant, elle n'était point trop repoussante, la pauvre vieille. On voyait encore qu'elle avait dû être belle autrefois, en dépit du ride du cou, des creux d'ombre qui évidaient sa gorge entre les tendons décharnés et les clavicules saillantes, en dépit des mamelles coulant ignoblement avec d'étranges flaccidités sur des bourrelets qui lui cerclaient le torse, en dépit des écroulements de la hanche où la peau flottante lui battait comme une vieille étoffe trop lâche et usée, on retrouvait une élégance de ligne, une noblesse de contour, des beautés vives encore, éparses parmi toutes ces flétrissures. Les jambes surtout, un peu maigres, un peu trop longues, mais droites et fermes, sans engorgement aux genoux, sans empattement aux chevilles, avaient toujours je ne sais quoi de jeune et de souple qui me frappa. Le ventre lui-même, cette première hideur de la femme qui se déforme, le ventre gardait des rondeurs pleines, des modelés délicats, une courbure presque polie, malgré le pli terrible qui le sabrait, le coupait d'une entaille profonde au-dessus du nombril. Je la considérais envahie par une presque douloureuse pitié et en même temps tourmentée par une inquiétude. Assise sur la table, elle ne bougeait point. Depuis que j'étais entré dans l'atelier, aucun des plis cotonneux de son épiderme n'avait tressailli. Pas un frisson n'avait secoué ses pauvres muscles. Une mouche qui bourdonnait autour d'elle vint se poser sur son épaule, courut entre les rigoles de ses rides, s'enfonça dans les chiffes pendantes de ses seins, remonta vers ses bras, disparut derrière sa nuque sans que la vieille femme parût éprouver la sensation d'un chatouillement. À la voir aussi complètement inerte, elle semblait de pierre, et rien n'était plus effrayant que l'immobilité macabre de cet être délabré et vivant. La tête, penchée sur l'épaule et rattachée au tronc par les tendons obliquement et violemment tirés comme des cordes, demeurait dans une si incomplète inertie que la peur, l'hallucination commençait à me gagner. Car elle me regardait, la vieille toute nue, elle me regardait obstinément, et ses yeux, bien qu'il me fût impossible de percevoir le moindre mouvement des prunelles, le plus léger glissement des paupières, ses yeux s'élargissaient, toujours fixés sur moi, sans remuer. Il s'effarait, passait de l'effroi à la colère, de la colère à la supplication, de la supplication à la honte, exprimait dans une même seconde 1000 pensées contraires et violentes, sans remuer. Non seulement il ne remuait pas, mais encore, à mesure que je les regardais, à mesure que se succédaient en eux les plus intenses, les plus bizarres, les plus anormales impressions, ils se pétrifiaient davantage, inexorablement. Au-dessous, ses lèvres rejointes s'enfonçaient dans la bouche, moulant les mâchoires édentées. Tout à coup, le cercle des paupières s'humidifia. Une nappe plus brillante couvrit la convexité vitreuse des prunelles et deux larmes, en même temps grossies, roulèrent sur ses joues et rebondirent, légères et chaudes, sur la nudité insensible de ce corps supplicié. Elle pleura longtemps, sans bouger. Il n'y avait de vivante en elle que ses larmes, qui versait goutte à goutte, sur le viol brutal de sa pudeur, les souffrances infinies de son âme violée.